Bonjour, Raymond Richard au micro, Simon est à la technique et nous nous retrouvons avec Monsieur Bourges Monory pour notre émission Bienvenue en Europe. Alors bienvenue en Europe, pour ce mois de mars, nous allons évoquer évidemment l'actualité récente et notamment il était question de finances puisque la France, malgré l'augmentation de sa dette qui atteint maintenant autour de 98% de son PIB, ce qui n'est quand même pas rien, a obtenu un nouveau délai. Alors parlons un peu des finances puisqu'il n'y a pas que l'aspect français, il y a l'aspect aussi des transformations de la BCE, il y a eu peut-être aussi une certaine dévaluation de l'euro qui favorise l'économie. Alors parlons un peu de tout ça. Alors voilà. D'abord, changement dans la BCE.
Alors en ce qui concerne la Banque Centrale Européenne, avec son président Mario Draghi, il était convenu qu'elle allait racheter une partie des dettes des États. Ceci à concurrence quand même de 1000 milliards d'euros, ce qui est quand même une somme vraiment considérable.
Alors là-dedans, il y a les créances pourries.
Alors évidemment, mais c'est précisément pour essayer de soulager certaines dettes des banques, des États qui ont cautionné les banques. Et donc c'est le jeu où... On se repasse à chaque fois le
mistigri.
Le mistigri, carrément. Et puis, sauf que ce mistigri, il est pas en bonne santé, quoi. C'est pas très agréable. Mais bon, évidemment, c'est elle qui fait tourner la planche à billets, pour parler tout à fait concrètement. Et donc, a priori, ça ne lui coûte rien, sinon qu'elle met dans son bilan un certain nombre d'actifs qui soulagent les États membres, qui
mais
sont les plus endettés.
Elle ne donne toujours pas l'autorisation aux États d'emprunter directement auprès de la Banque Centrale.
Elle ne le peut pas. La Banque Centrale ne peut pas emprunter, ne peut pas racheter. Et les banques centrales et les États ne peuvent pas emprunter directement auprès de la BCE parce que c'est contraire à ses statuts.
C'est là qu'on se dit, pourquoi ?
Il y a quelque
chose qui est un peu cloche.
L'Allemagne en particulier a toujours été contre ce système parce qu'elle voulait que les États s'obligent à gérer correctement dans leur périmètre ce qui était de leur ressort et pas de se décharger auprès de la BCE.
Or, c'est ce qui se passe.
Alors maintenant, la BCE essaie par la bande, en quelque sorte, d'essayer d'améliorer quand même la situation des pays qui sont les moins bien placés et c'est parallèlement de relancer l'économie. Donc elle a conjointement avec le plan Juncker de 315 milliards d'euros pour essayer de donner de la croissance à l'Europe, à l'appui, elle a fait en sorte que l'euro baisse et on voit déjà ici en ce début mars que le cours de l'euro continue à baisser. Donc à la fois, c'est bon pour les exportations, mais les exportations en dehors de l'Europe, bien sûr, parce que pour le marché intracommunautaire, évidemment, ça ne joue pas, puisque là, on vend en euros, en tout cas au sein de la zone euro. Alors en France, on a en particulier, on se félicite toujours quand la monnaie baisse, parce que, évidemment...
Le pétrole est moins cher.
On peut vendre, faire des exportations à l'extérieur plus facilement, etc. Mais ça ne règle pas les problèmes de fond. Et les problèmes de fond,
parce que finalement, on n'en profite pas tant que ça.
Comment relancer l'économie européenne alors que dans le monde entier, il y a, à la suite de la grande crise des années 2007-2008, la seule partie au monde qui ne rebondit pas, c'est l'Europe, et en particulier la zone euro. Alors il y a quelques frémissements ces derniers temps, il y a eu des statistiques qui montrent que la situation commence à s'améliorer, mais très doucement par rapport à d'autres pays. Donc voilà où l'on en est. Et dans ce contexte-là, la France, qui a une dette quand même très inquiétante, après avoir dit qu'elle allait rembourser une partie de la dette, qu'elle allait revoir avec des réformes structurelles, qu'on allait revenir sur les 3% exigés par les traités, signé par la France, eh bien, on ne fait rien et à chaque fois, on présente un nouveau budget ou on remet à plus tard le fait de revenir dans les clous tels que c'est exigé par les traités. Alors la Commission, appuyée d'ailleurs par la plupart des États, ont failli se fâcher vraiment ces derniers temps contre la France. La France a obtenu un nouveau délai de 2 ans pour régulariser sa situation.
Ce qui fait en fait que ça va passer pour les suivants.
Exactement. Mais il était question que la France obtienne un délai de 3 ans, ce qui aurait amené après les élections présidentielles de 2017. Mais finalement, la Commission a fait marche arrière et a dit non, on demande que la France respecte ce qu'elle doit faire d'ici 2017, bien avant, donc 2016. Et là, elle a assorti cette exigence. Donc ça tombera avant les élections présidentielles françaises, donc en pleine campagne électorale, où le gouvernement de la France, à ce moment-là, sera obligé de prendre vraiment les mesures qui s'imposent.
Ce qui donnera
à
Madame Le Pen toute chance de raconter que l'Europe.
Évidemment, c'est encore un... Alors le paradoxe dans tout ça, c'est que c'est l'ancien ministre de l'économie français, M. Moscovici, qui se retrouve avec la casquette européenne à Bruxelles pour gronder en quelque sorte la France. Il y a un côté un peu paradoxal, sinon comique, si ce n'était pas aussi dramatique et triste. Alors là, la Commission a exigé que d'ici le mois d'avril, la France présente un nouveau plan de redressement budgétaire de ses finances avec des économies encore substantielles à proposer à la Commission et à s'engager à les faire avant donc le mois d'avril et en dehors du délai de 2 ans qui est donc convenu pour rentrer dans la limite des 3%.
Oui, alors c'est vrai aussi que vis-à-vis de la Grèce qui était dans une situation plus difficile et qui a élu un gouvernement qui revendiquait de ne pas suivre les consignes européennes bruxelloises. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal, finalement, à être exigeant vis-à-vis des petits États comme la Grèce, et puis soi-même être...
La situation grecque, en fait, a été un peu envenimée, il faut bien le dire aussi, par les propos tenus par le nouveau gouvernement grec lui-même. Il s'est mis à dos quasiment tous les pays de l'Eurogroupe. Et donc les ministres des Finances de la zone euro au sein de l'Eurogroupe ont exigé de la Grèce qu'il ne fallait pas, on ne pouvait pas continuer à lui prêter de l'argent sans un minimum de garanties. Et les garanties en question, eh bien, c'est de procéder à des réformes structurelles importantes, et notamment au niveau de la réforme de son administration, de ses finances. Et le gouvernement grec...
Faire rentrer un peu ses impôts.
Faire rentrer ses impôts en particulier. Et le gouvernement grec donc, a présenté une feuille de route en disant « oui, on va faire ça », mais sans qu'il se soit chiffré. Alors l'Europe, l'Eurogroupe... a dit d'accord, la Commission a dit d'accord, on vous donne encore quelques mois, 4 mois pour essayer de remettre cela jusqu'au mois de juin. Entre-temps, les Grecs ont présenté des mesures de réforme, mais si l'on comprend bien, alors que l'on croyait que tout allait rentrer dans les rails sur cette question grecque, pas du tout, le gouvernement grec vient de faire savoir ces derniers jours qu'il n'était pas du tout d'accord à remettre en cause son propre plan pour lequel il a été élu. Et donc on remet sur la table des aspects conflictuels du règlement de cette question. Alors évidemment, on peut toujours se dire la Grèce n'est pas en capacité de rembourser sa dette à l'heure actuelle, mais ce qu'on lui demande, c'est de procéder par étapes. Et les États européens, parmi lesquels notamment l'Espagne, le Portugal et l'Irlande, ont été les plus sévères, parce que eux-mêmes
ont fait quelques
progrès. Efforts et ils n'admettent pas que les Grecs refusent de faire un minimum dans ce sens. Donc les dés sont un peu pipés. Alors évidemment, on peut toujours se dire, ah mais c'est un petit pays, ils ont le couteau sous la gorge, et puis on les enfonce plutôt que d'essayer de les relever. En fait, la question est quand même un peu plus complexe que cela, et il faut tout de même que la Grèce essaie de faire un geste pour que de l'autre côté, il puisse y avoir une négociation à l'avantage de tout le monde. Donc pour l'instant, alors qu'on croyait que la question était réglée jusqu'au mois de juin, eh bien c'est relancé, on verra un petit peu dans les jours qui viennent.
C'est dans l'attente, et on va attendre aussi avec une pause musicale.
Les filles dans nos cœurs font des travaux d'aménagement, souvent au marteau piqueur et sans ménagement. Si vous voyez dans ma poitrine le chantier, il se peut que par déprime, comme moi vous chantiez.
Nous sommes toujours dans l'émission Bienvenue en Europe, et après l'aspect financier que l'on a évoqué précédemment, eh bien parlons un peu de cette coopération européenne qui avance et qui me paraît positive, et notamment ce qui concerne les questions énergétiques, puisque il est question d'établir l'interconnexion, c'est-à-dire le système qui permet à un pays de communiquer et de transporter de l'énergie en jouant sur les horaires, etc., et sur les productions. Donc, quelque chose de très positif qui permet de créer l'Europe dans le concret des choses.
Oui, d'ailleurs, on devrait rappeler que l'Europe s'est construite sur, justement, les questions énergétiques.
C'était sur le charbon.
Sur le charbon et l'acier, donc, qui étaient à la fois c'était stratégique, évidemment, mais on revient en quelque sorte au point de départ. Alors, sachant qu'une communauté européenne de l'énergie avait déjà été proposée par Jacques Delors, et il n'y a pas eu de suite. Alors maintenant, on en revient.
L'aspect international pèse, non ?
Alors, exactement. Le contexte international pousse les Européens à se bouger. La dernière visite en Espagne du président français, où il a rencontré également les responsables portugais, il y a eu une réunion qui a relancé en quelque sorte cette Union européenne de l'énergie, et également, parallèlement, la commission Juncker avait déjà dans son programme, donc la nouvelle commission Juncker, avait dans son programme cette Europe de l'énergie comme une de ses priorités les plus importantes. Donc un projet stratégique qui va être finalisé, qui est en cours d'étude au niveau de la Commission européenne, pour donner du corps à tous ces projets.
Puis il y a la question russe, non ? Finalement, alors, la dépendance vis-à-vis du gaz russe, en période de refroidissement avec la Russie, ça peut peut-être peser aussi.
Quand on voit que du côté, j'ai une carte sous les yeux que l'on ne peut évidemment pas montrer malheureusement à nos auditeurs, mais où l'on voit les lignes d'approvisionnement qui viennent de Russie pour alimenter en gaz l'Europe. On se rend compte que la Pologne, par exemple, est tributaire à 57% du gaz russe, l'Allemagne à 46%, la Hongrie 82%. Donc il y a la France, elle, évidemment, à son énergie nucléaire pour l'instant.
Donc un peu moins.
Elle est beaucoup moins dépendante du gaz russe. Alors parallèlement, il y a des accords et il y a tout un plan qui est préparé pour établir des interconnexions, à la fois électriques, comme vous l'avez souligné, il y a des réseaux, des interconnexions. L'Espagne et le Portugal en particulier ont développé très fortement leurs énergies renouvelables. Et donc on va essayer de mettre sur pied une solidarité entre les États pour que, lorsqu'il y a des pics de consommation, on puisse essayer par des interconnexions à soulager tel ou tel pays. Et parallèlement, on va développer tout ce qui peut se faire pour être moins dépendant du gaz russe. Alors il y a en particulier celui qui vient du Maghreb. Il y a des projets d'amener du gaz d'Afrique. Il y a aussi un câble sous-marin qui est un projet à travers le golfe de Gascogne pour rejoindre une partie de l'Europe avec celle du Sud. Donc il faut qu'on fasse jouer la sécurité des approvisionnements. Et donc tout ceci va certainement prendre du temps. Mais quand on voit notamment du côté des pays baltes en particulier, ils sont
totalement dépendants,
dépendants de la Russie. Et quand on voit le contexte actuel est très conflictuel avec ce qui se passe en Ukraine, on comprend qu'il serait temps pour l'Europe de se réveiller et de faire quelque chose. Alors d'ailleurs, parallèlement à ça, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire « c'est bien, il faut absolument se renforcer ». Face aux menaces russes, l'énergie, c'est une chose, mais il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi la question carrément militaire.
Et oui, alors sur le plan international, effectivement, certains évoquent une armée européenne.
L'armée européenne, rappelons que c'est la France, en 1954, qui a refusé la communauté européenne de défense, pour des raisons qu'on ne va pas ici évoquer parce que ce serait trop long, mais elle a une certaine responsabilité en la matière, alors que tous les États à l'époque, les six, étaient prêts à signer ce traité. Donc maintenant, devant ce qui se passe face aux menaces russes, mais pas uniquement, il y a les menaces de Daesh en Afrique, il y a de multiples conflits internationaux en dehors de l'Europe, mais qui sont pas loin de nos frontières, eh bien il faut absolument que l'Europe se reconstruise et se renforce et n'ait plus peur de se coordonner, de mettre sur pied quelque chose. Alors un grand nombre de responsables politiques ou des experts ne cessent de rappeler cet aspect des choses pour dire qu'il y a urgence, il faut absolument qu'une coopération en matière militaire et aussi d'armement se mette en place le plus vite possible et se renforce. Et
là, on rejoint, déjà un peu en place puisqu'il y a le record.
Il y a le record, mais là, disons que c'est à titre symbolique, mais là, il faudrait véritablement mettre sur pied une force qui soit au sein de l'OTAN capable de nous défendre et non pas hypocritement à chaque fois, nous Européens, de nous en remettre aux Américains à travers l'OTAN. Et donc là, il y a quelque chose à faire. Il y a un cri d'alarme à lancer. Là aussi, il faut plus d'Europe parce que séparé, on n'est rien du tout. Pensons aux pays baltes qui étaient il n'y a pas si longtemps sous la tutelle russe. Et la Lituanie vient justement, face à ces menaces, de rétablir le service militaire obligatoire pour tous les citoyens de ce pays européen face aux menaces russes. Donc il y a une très grande inquiétude du côté des pays de l'Union européenne, anciennement de l'Est.
Des ex-pays
de l'Europe de l'Est, qui eux sont en première ligne et savent qu'est-ce que ça représente, la menace russe. Alors c'est bien, Angela Merkel et François Hollande ont été négociés avec Poutine, mais on voit bien que cela n'a rien donné. Donc il faut autre chose. Et sans avoir malheureusement au moins un armement qui impressionne l'extérieur, eh bien on ne peut pas être pris au sérieux, historiquement, dans l'histoire du monde. Il faut montrer sa force pour pouvoir exister et ne pas se faire manger par les voisins.
Alors c'est peut-être le moment aussi de se rappeler que l'Europe était un espace de paix, peut-être
exactement,
de retrouver ses fondamentaux.
Exactement. Et on a fait l'Europe pour faire la paix, mais aussi c'était face au régime soviétique. Alors c'est malheureux, on dirait que les leçons du passé ne servent jamais à rien, qu'il y a...
De toute façon, ils ne se reproduisent pas, le passé ne se reproduit pas,
mais il y a
à y voir quelque chose.
Oui, tout à fait. Alors voilà, quel est le contexte, et là aussi, il faudrait plus d'Europe, et il serait temps que nous nous réveillions et que l'on se mette d'accord pour plus d'Europe, mais ça signifie qu'il ne s'agit pas de décréter...
Une construction politique, en fait.
Exactement, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'économie et des finances, mais s'il n'y a pas un budget fédéral qui fait que les pays riches, les zones riches de l'Europe viennent en soutien à celles qui sont moins riches ou plus pauvres, eh bien, ça ne marche pas. Dans un État, c'est ce qui se passe. Donc au niveau de l'Union européenne, prise dans sa globalité, cela devrait être une évidence de la même manière que la situation au plan national. Et ça, on ne le veut pas, pour des raisons qui seraient trop longues d'évoquer.
Eh bien, nous allons faire une pause musicale avant d'évoquer aussi les questions qui sont reliées à l'international, les questions des migrants.
Est-ce plus facile pour un papillon que pour un facochien ou un caméléon? Est-ce plus facile pour un puma féroce que pour un dindon, un rhinocéros? Est-ce plus facile que pour un colibri ou un lémur nictalo? Est-ce plus facile pour les dernières baleines que pour les dauphins zigouillés par centaines? Brochez vos reins sous petite tablette en rivière, ta main noire solitaire, fourmi ouvrière. Est-ce plus facile pour les abeilles?
Bien, toujours dans l'émission Bienvenue en Europe sur Radio Grand Ciel. Nous avons évoqué cette solidarité pour l'international. Eh bien, il y a un aspect aussi de cette solidarité internationale et qui est un peu associé, c'est la question des migrants, puisque le fait d'avoir à nos portes, au Proche-Orient, mais aussi en Afrique du Nord, en Libye, des conflits, eh bien, cela génère une quantité très très importante de migrants qui viennent de ces pays. Et jusqu'ici, on délaissait aux pays frontaliers hors Europe le soin de faire la police. Cela ne peut plus être cela. Et on a un dispositif Frontex qui est peut-être un peu faible par rapport à ces courants de migration. Et par ailleurs, on est toujours très sensible au fait qu'il y ait des bateaux de populations qui se noient dans la Méditerranée. On a évoqué la Méditerranée comme cimetière. Enfin, bon, donc des expressions fortes, d'émotion, et en même temps, le refus de regarder en face cette réalité.
Oui, la question des migrants est une question à la fois complexe et, comme vous venez de le souligner, très sensible, parce que c'est facile d'interpréter dans un sens ou dans un autre les chiffres que l'on peut donner. Alors justement, il y a un rapport de l'agence Frontex qui est sorti récemment pour dire que le nombre d'immigrés a progressé de 180%. Par rapport à l'année entre 2014 et 2013, ce qui est absolument considérable. Donc il y aurait actuellement 274 000 immigrés illégaux qui seraient rentrés dans l'Union européenne l'année dernière. Donc alors évidemment, ces chiffres...
Par rapport aux 500 millions d'Européens, ça ne fait pas grand-chose.
Oui, évidemment, ça, il faut toujours relativiser, bien sûr. Alors, mais quand on cite des chiffres comme cela, on déclenche la peur chez ceux qui sont dans nos campagnes de Beauce ou d'ailleurs, en Europe, et qui se disent « c'est affreux, on va être complètement envahis ». Non, on en est tout à fait loin, mais il y a une question d'organisation. Alors, il se trouve que l'agence Frontex, elle, est chargée, justement, de surveiller les frontières. C'est son job, c'est son mandat.
Sauf qu'on l'a établi en période de flux faible.
Alors,
donc
exactement.
Elle est un peu dépassée, non? Et puis elle n'a pas les moyens.
Et alors justement, c'est une question de moyens. Donc elle est chargée de coordonner, mais elle n'a pas elle-même des agents en tant que tels. Elle a des... Le siège d'ailleurs est à Varsovie, entre parenthèses, et c'est un Français qui vient d'être nommé récemment, en janvier, à la tête de cette agence. Et donc, c'est cette opération-là, Frontex ne peut que coordonner. Elle ne peut pas, quand elle envoie des personnels pour surveiller les frontières, ce sont des personnels des États qui sont en quelque sorte, qui reçoivent le mandat d'y aller. Mais elle n'a pas elle-même les moyens physiques ni budgétaires. Alors il y a une hypocrisie du côté des États, parce que évidemment on dit c'est pas possible, on peut pas continuer comme cela. Il faut faire le tri entre ceux qui sont des vrais demandeurs d'asile et les autres. Mais en attendant, on se lave les mains quand il y a des bateaux qui coulent au large des côtes italiennes, les Italiens qui recueillent des survivants par grand nombre. Et tant que c'est pas chez soi, on veut pas faire preuve de grande solidarité. Alors bon, ces derniers temps, il y a eu quand même un redressement, non pas de la situation, mais en tout cas une prise en compte de ces préoccupations pour dire ça ne peut plus durer comme cela, il faut faire vraiment quelque chose. Alors, bon, hein, il faut créer un corps européen de garde-frontières, il faut essayer d'approfondir la chose, mais Frontex doit défendre en quelque sorte les frontières. Parallèlement, vous avez les associations de défenseurs des demandeurs d'asile, de défense des demandeurs d'asile et des défenses des droits de l'homme qui disent mais non, il faut essayer quand même de faire preuve de charité. Le pape lui-même, François, a mis en avant cette dimension-là. Donc c'est absolument complexe et parallèlement et indépendamment de cette situation dramatique qui est due largement à la situation politique en Libye, en Syrie, dans toutes ces régions
de
Proche-Orient, où la majorité de ceux qui fuient viennent de ces régions-là, indépendamment de cela, l'Europe, il faut quand même le dire, pour remettre les pendules à l'heure, a besoin d'immigrants. Elle en a besoin, et notamment en Allemagne. On sait que l'Allemagne, compte tenu
sur
de
le plan
son
démographique
elle est en déficit à long terme, et même pas si long terme d'ailleurs, puisqu'on prédit que dans les années 2050, la France aura dépassé en population la population allemande. Donc on a un besoin de population immigrante.